France Inter.
Bonjour à toutes et tous. Pour un coût de 30 milliards d'euros, 2500 hectares de zones agricoles et naturelles artificialisées, pour une quantité inestimable d'eau perdue, de sources asséchées, et j'en passe, c'est peut-être le moment de peser le pour et surtout le contre du projet TELT, comme tunnel euralpin Lyon-Turin, inutile, imposé et d'une autre époque.
Il est évident qu'aujourd'hui, la Maurienne est colonisée, et colonisée par TELT. Et malheureusement, j'ai peur que la Maurienne devienne TELT Vallée. À ce moment-là, il va falloir que cette vallée, qui est donc sous tutelt, et moi je parle de démanteltement, véritablement, de la vallée, c'est pas seulement un problème mauriennais, c'est que toute personne qui est un être humain peut défendre en quelque sorte la vallée, simplement parce qu'évidemment il y a des atteintes importantes contre l'environnement de cette vallée.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Ouais, je t'en prie, vas-y.
Où est-ce que t'as mis la banderole, la montagne se soulève?
Elle est là-bas.
La fameuse banderole, la montagne se soulève. C'est ça.
Je le dis également comme organisateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Les personnes qui sont ici sont des lanceurs d'alerte.
Tout à fait, Daniel. Daniel Ibanez, que l'on retrouvera tout à l'heure, opposant historique et cofondateur de la coordination des collectifs contre la nouvelle ligne Lyon-Turin et les tunnels qui vont avec. Oui, il s'agit bien d'une nouvelle et deuxième ligne, puisqu'il en existe déjà une. C'était les 17 et 18 juin, une mobilisation internationale pour la défense des montagnes, de l'eau et de l'argent public. Stop au Lyon-Turin, le réveil des montagnes. Des milliers de personnes se sont réunies dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, à l'appel d'une vaste coalition d'associations Vivre et Agir en Maurienne, les Amis de la Terre, Attaque, deux syndicats, Sudrail, la Confédération Paysanne, deux partis politiques, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, et aussi des soulèvements de la Terre, ce qui n'a pas manqué, à quelques jours de leur dissolution par le gouvernement, d'attirer l'attention des médias et déclencher une rafale d'interdictions préfectorales. On va y retrouver Julien Trocaz de Sudrail, Lorline, du CCLT, collectif citoyen contre Lyon-Turin de Chapareillan, Étienne des Soulèvements de la Terre et tout de suite Philippe Delhomme de l'association Vivre et Agir en Maurienne.
C'est bien tôt demain sur France Inter.
Pas facile alors, Philippe, d'organiser, non, ce rassemblement aujourd'hui, quoi?
C'est sûr que c'est pas facile, mais quand je vois quand même l'énergie positive qui émane de toutes ces personnes, je trouve que c'est ça le plus important. Je pense que déjà là, on a gagné de façon extraordinaire, puisque enfin l'opposition contre le Lyon-Turin est visible au niveau national. Et comme en Italie, j'allais dire, les notables sont connus dans toute l'Italie, eh bien je pense que désormais, en France, on saura qu'il y a un combat très fort contre le Lyon-Turin.
Et pas facile, parce que tout est fait pour que ce rassemblement puisse pas se faire, c'est ça? Ou alors se fasse sous tension, quoi.
Finalement, je me rends compte que lorsque des opposants veulent véritablement se mobiliser, eh bien on fait tout pour l'en empêcher. Et pour moi, c'est grave, parce que ça veut dire qu'on est dans un système de déni de la démocratie, où ceux qui sont favorables au Lyon-Turin ont pu manifester avant-hier.
Ils étaient une centaine. Hein.
Ils étaient une centaine, voilà, exactement. Ben, là,
milliers.
Nous sommes déjà pas loin de 3000 ce matin, et il y a d'autres qui vont encore arriver. Et en fait, là, on nous empêche clairement déjà de pouvoir circuler, de pouvoir manifester librement. Ça devient très compliqué.
Oh, je n'étais qu'un gosse. Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 tout comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Alors Julien, ça fait des années, toi aussi, que tu te bats. Alors, Julien Trocaz, hein, toi, tu es représentant Sudrail, ici.
Ouais. Moi, je suis secrétaire fédéral à la Fédération Sudrail.
Tu es d'ici, hein, tu es un enfant du pays.
Ouais.
Qu'est-ce qui se joue au niveau du ferroviaire sur cette histoire de Lyon-Turin?
Bah, il joue deux choses, en fait. Il joue qu'on a plein de bâtons dans les roues depuis des années pour faire du report modal tout de suite sur cette ligne existante, en fait. Tout de suite.
Il y a une ligne existante déjà, c'est ça la question.
Il y a une ligne existante. Et là, évidemment, on a une fin de non-recevoir. On n'a même pas un semblant d'étude ou de volonté d'aller dans ce sens-là. Première chose. Puis
sur le rail, sur l'existant, quoi.
Sur l'existant, tout de suite. On avait fait, par exemple, une manifestation en 2017. On avait fait des propositions au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque. On avait dit tout de suite, au départ d'Ambérieu, on peut mettre des marchandises sur le rail. Cet exemple du Lyon-Turin, pour moi, c'est l'exemple vraiment de cet ancien monde. Ancien monde qu'on a du mal à faire disparaître, ça veut dire produire toujours plus, ne pas penser au bien-être, ne pas penser à l'écologie. Et puis aussi, dernier truc, c'est qu'il n'y a pas de débat public. Moi, je représente des cheminots et des cheminotes qui ont fait leur carrière, par exemple, en gare de Modane. On va les interviewer et dire « oui, c'est possible de faire circuler plus de trains ». Normalement, on devrait les écouter, en fait. En plus, ce projet-là, ça veut dire que c'est 10 autres tunnels.
Plus bas dans la vallée, quoi.
Parce que c'est que le début. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter tout de suite. Et les gens s'en rendent compte. Il y a des collectifs qui se créent à Lyon, il y a des collectifs qui commencent à se créer sur le tracé, il y a des collectifs historiques dans ce qu'on appelle la vallée du Grésivaudan, Chaparayan, tout ça. Donc les gens se rendent compte que c'est entre guillemets, c'est que le début et c'est le moment de l'arrêter.
Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous et tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
Alors du coup, on va dire que j'ai été sensibilisée dans les années 80 parce que j'habitais avant Apremont et le tracé avant passait sur Apremont. Et ma maman, enfin moi j'étais encore petite hein, dans les années 80, et mes parents s'étaient déjà mobilisés contre le Lyon-Turin. Ils avaient, je crois qu'ils étaient allés bloquer, je ne sais plus, l'autoroute, enfin, comme beaucoup d'Apremolins. Et le fait d'habiter Chaparayan, du coup, y avait des grandes mobilisations en 2014-2015. Ils avaient fait des grandes mobilisations internationales. Donc je suis allée aux réunions, je me suis un petit peu intéressée au sujet. Du coup, j'ai fini par rentrer dans le CCLT, collectif contre le Lyon-Turin.
Ouais.
Donc j'ai fait connaissance avec Daniel. Et puis depuis l'année dernière, j'ai dit il faut relancer les choses. Et c'est vrai que j'ai pris en main un petit peu les mails et relancé un petit peu des réunions d'information. Donc, et en déménageant, il y a 2 ans, donc, j'ai découvert que là où j'allais habiter, il y a exactement la même problématique avec un tunnel sous Belledonne aussi. Et ce qui m'a halluciné, c'est que quand j'en ai parlé avec mes voisins, personne n'était au courant. Donc c'est les voies d'accès. Il y aurait un tunnel sous Chartreuse et un tunnel sous Belledonne.
Et leur ligne est là aujourd'hui, c'est la question de l'eau qui a été révélée notamment en septembre.
Entre autres, oui.
Elle devient primordiale parce qu'il y a cette question de sécheresse.
Il faut savoir que cet été, pendant les restrictions d'eau, les eaux d'Exor, il y avait 120 litres seconde qui s'écoulaient en plein été. À partir du moment où on creuse un trou, du coup, ça draine la montagne. Et comme on leur demande justement d'estimer, de nous dire ces quantités, ils ne répondent jamais. Et on l'a estimé à 120 litres seconde. Et on s'est rendu compte justement qu'il y a déjà eu des percements en Belledonne, parce qu'après ça dépend vraiment des roches. En Chartreuse c'est encore pire, parce que c'est un sol calcaire avec beaucoup de fentes, et du coup c'est écrit dans l'enquête d'utilité publique que le système karstique est pratiquement impossible à prévoir. Donc ils ne savent pas, parce qu'ils disent qu'il y a tellement de fentes qu'on ne sait pas où va partir l'eau. Et leur solution c'est soit on va imperméabiliser. Donc, on n'ose pas imaginer justement les produits qu'ils vont utiliser. Ensuite, ils disent, bon, bah, si du coup ça touche des sources en eau, eh ben, on pompera un peu plus dans les captages d'à côté, ou on en creusera d'autres, ou autrement, on fera venir d'ailleurs. Et si bah, ça ne marche pas, bah, on indemnisera. Donc, c'est vrai qu'on peut tout à fait indemniser de l'eau. Je vous disais, en Belledonne, il y a eu un creusement pour une galerie EDF, qui est beaucoup plus petite que celle qu'il ferait ici. Et ça a séché toutes les sources. Et ça, c'est le BRGM qui le dit, en 1977, autour de 4 km du percement. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas.
Antoine Chao,
c'est
bientôt demain sur France Inter.
Voilà, donc du coup, on est très content d'une journée comme aujourd'hui, parce que enfin, c'est médiatisé, enfin, c'est au niveau national et c'est au niveau international.
Oh, il y a une action là, hein, qui se prépare. Là, c'est un ballon qui va s'élever avec un slogan ou quelque chose.
Ça pourrait ressembler à un drapeau notave. On ne le voit pas encore se déployer, mais ouais. Je parierais plutôt là-dessus, quoi.
Ouais, le ballon s'envole. Un ballon à air chaud avec un grand drapeau marqué notave. C'est le décollage de la lutte notable ou Notelt en France, quoi. C'est ouais. Ça le nom au Lyon-Turin.
C'est ouais, bah c'est magnifique. C'est vraiment le symbole de tout ce week-end, quoi. C'est l'envol de la lutte, quoi. Vraiment à travers ce ballon là qui part directement sur les chantiers du Telt, quoi. Et du coup, voilà, de savoir que cette lutte existait, de comprendre aussi tous les enjeux difficiles qui traversent depuis quelques années avec la criminalisation qu'il y a du côté italien, la militarisation du territoire. Qui font écho bah, à la fois à des luttes qui montent en puissance mais qui n'arrivent pas à faire abandonner le projet encore quoi. Et du coup bah, vraiment c'est peut-être aussi maintenant du côté français où il faut prendre la relève, même si c'est vrai qu'on se rend compte que c'est compliqué hein. La vallée sous cloche de Telt qui essaie de faire taire toute opposition, c'est vraiment clair que là ça passe un cap et ça passe un seuil, et c'est un peu ce qu'on recherche aussi nous à chaque fois dans les mouvements qu'on accompagne avec les soulèvements quoi. Là c'est évident quoi. C'est clair, net et précis, ça s'impose dans le débat national à mon sens à partir d'aujourd'hui. Ok, il y a 10% de galeries qui sont creusées, mais c'est rien quoi. Bon, 10% d'un des 5 tunnels quoi, faut le rappeler quoi. Enfin, là on parle du tunnel de base parce qu'il y a une focalisation, c'est le plus grand, le plus long. Il y en a 4 autres à travers les différents massifs alpins. C'est au total 260 km de galeries. Et là, ils ont fait les descendries et à peine 10% du plus grand tunnel. Il est largement temps de l'abandonner. Enfin, il n'y a aucune hésitation à avoir de ce côté-là, quoi, c'est sûr.
Ouais. Alors Daniel, on s'était vu en septembre, il y avait une première mobilisation qui avait réuni des élus, des habitants, et là, la mobilisation est passée à l'échelle supérieure, quoi, hein, à la vitesse supérieure. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû aux soulèvements de la terre qui se sont joints à la mobilisation. Comment t'expliques ce coup de projecteur ? Alors le cas du Lyon-Turin qui passe sur le devant de la scène, médiatique et politique.
Alors de fait... la présence des soulèvements de la terre, l'engagement des soulèvements de la terre aux côtés des organisations qui se battent contre ce projet, qui ont documenté, en fait, bien évidemment, a mis sur le devant de la scène médiatique ce rassemblement, cette manifestation. D'ailleurs, il faut préciser que les élus de Maurienne et le préfet, relayés par la presse locale, n'ont pas brillé par la finesse, puisque on a été titré dans la presse locale « Peur sur la Maurienne »,« La vallée a peur », plus de ça, avec des mesures extraordinaires. Ils ont quand même mis des policiers à la sortie des écoles. Enfin, j'ai l'impression de revenir dans les années 50 avec le couteau entre les dents, quoi. Enfin, alors, le résultat des courses, c'est qu'effectivement, Oui, ça nous a permis, là, ce week-end, de vraiment avoir une prise de conscience, à la fois dans les médias, mais aussi chez les militants, hein, qui venaient en disant non aux grands projets inutiles, sans avoir finalement de matière. C'est un véritable succès, parce que la question fondamentale de ce dossier, à savoir la ligne existante, peut être facilement utilisée. Le projet qui met en péril, et j'utilise la formule « met en péril », vraiment en toute conscience, parce que ça met en péril les terres agricoles, etc. Mais je l'utilise en toute conscience parce que j'aime à me rapporter aux textes fondamentaux de la République, notamment dans ce cas-là, la Charte de l'environnement, qui crée un lien indissociable entre l'existence humaine et son environnement. Et qui dit ensuite, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas au nom d'un droit de protéger l'environnement qu'on agit, c'est au nom d'un devoir du principe fondamental républicain de le préserver. Et par conséquent, comme il y a ce lien d'indissociabilité, je pense qu'il est intéressant de réfléchir à la notion de légitime défense dans ces cas-là, puisque la montagne ne peut pas se défendre, mais finalement, puisque notre existence est indissociable de l'environnement, elle est mise en péril par le lien d'indissociabilité, on met en péril les terres agricoles, l'eau, la biodiversité, l'environnement, par des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, nous-mêmes, nous trouvons menacés et nous sommes en légitime défense de résister à ce projet. Le préfet a plaidé devant la présidente du tribunal administratif qu'il craignait les débordements. Et en fait, j'en ai conclu que par son interdiction de manifester, ça n'était pas des débordements dont il avait peur, mais de la manifestation de la vérité.
C'est bientôt demain. Merci à Daniel, Philippe, Julien, Laureline et Étienne. Toutes les infos sont sur la page de l'émission C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Merci à Antoine Larcher qui a réalisé cette émission tout au long de l'année. On se retrouve à la rentrée, à l'antenne et en podcast. Et en attendant, je vous souhaite un bel été à toutes et tous.